الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، Nous avions évoqué la fuite des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Pharaon, ayant appris cela, fut saisi de colère et les poursuivit lui et son armée. Ces derniers réussirent à rattraper Moussa et les siens. Et la situation semblait critique pour les croyants, car ils étaient coincés entre la mer devant eux, les montagnes de part et d'autre, et l'armée de Pharaon derrière eux à leurs trousses. La crainte et la frayeur s'emparèrent d'eux au souvenir des persécutions qu'ils avaient subies sous le joug et l'autorité de Pharaon. Ils avouèrent même leur peur et leur vision à leur prophète sincère et véridique qui leur répondit « Pas du tout, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Moussa était à l'arrière de la troupe, il se rendit au devant et regarda vers la mer aux vagues déchaînées, rejetant son écume et en disant « C'est vers cet endroit que j'ai reçu l'ordre de me diriger. » Autrement dit, la destination qu'avait suivi Moussa alayhi salat wa salam émanait d'Allah tabarak wa ta'ala. C'était un ordre d'Allah que Moussa devait exécuter. Car Allah tabarak wa ta'ala, dans sa grande sagesse, avait voulu que les choses se passent ainsi. Allah jalla jalaluhu lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. Celle-ci se fondit, laissant apparaître 12 chemins surplombés de vagues immenses telles des montagnes. Les enfants d'Israël purent alors s'engouffrer dans ces passages et fuir l'armée de Pharaon. Une fois passé, Moussa voulut refrapper la mer de son bâton afin qu'elle retrouve son état initial et que les armées de Pharaon ne puissent traverser. Seulement Allah voulut noyer les armées de Pharaon et dit à Moussa à cet effet « Watrukil bahra rahwan » « Laisse la mer calme » c'est comme ça qu'on le traduit habituellement. C'est-à-dire « Laisse-la telle qu'elle est et ne change pas son état. » Littéralement, « Laisse la mer avec ses ouvertures béantes. » Car « rahwu » c'est une ouverture grande et vaste. Ayant vu la traversée des croyants, Pharaon et son armée décidèrent de les suivre, de les pourchasser et d'emprunter un de ces chemins. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à cet effet « وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Sourate numéro 10, les versets 90 à 92. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec injustice et transgression. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit « Maintenant tu crois, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. » Allah qualifia cette poursuite de Pharaon d'injustice et de transgression. Car Pharaon n'avait pas le moindre droit ou la moindre excuse pour les retenir. Chaque personne est libre de quitter sa terre ou son pays. Seulement Pharaon s'acharna à les poursuivre afin de les empêcher de partir, tout cela dans l'objectif de continuer à les asservir et les contraindre à accomplir les tâches les plus difficiles, les plus pénibles et les plus déplaisantes que les Coptes se refusaient d'accomplir. Dès que Pharaon et les siens s'engouffrèrent dans ces chemins ouverts dans la mer, les vagues se refermèrent sur eux et les noyèrent tous. C'est à ce moment que Pharaon réalisa avec l'œil de la certitude, « Aïnul Yaqin », la véracité de Moussa et qu'il déclara à ce moment, je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. Il sut que ce qui lui arriva à ce moment était dû à la colère d'Allah et il espéra, par sa reconnaissance de l'unicité d'Allah, être sauvé. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit concernant ces versets: Allah informe de la manière dont Pharaon, le chef des mécréants coptes, se noya. Lorsque les vagues se mirent à le soulever et à l'engloutir, les enfants d'Israël le regardaient, lui et ses armées, et le châtiment immense et douloureux qu'Allah fit s'abattre sur eux. Ceci, afin de les réjouir et d'apaiser leur âme. Lorsque Pharaon vit que sa fin était proche et qu'il sentit les affres de la mort, il en regretta et se repentit et crut à un moment où la foi n'est plus utile. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, « Inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yara'u al'adhab al-alim » Sourate 10, versets 96 à 97. « Ceux contre qui la parole de ton Seigneur a été prononcée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad kharat fi 'ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Sourate 40, versets 84-85. Puis quand ils virent notre châtiment, ils dirent, nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. Quand ils virent notre châtiment, leur croyance ne leur fut plus d'aucune utilité. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Moussa invoqua contre Pharaon et ses notables afin qu'Allah anéantisse leurs biens et endurcisse leur cœur afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux, c'est-à-dire jusqu'à l'instant où la foi ne leur servirait plus à rien et qu'ils n'auraient plus de regrets. Entre parenthèses, nous avions expliqué cela d'une autre manière, en disant que Moussa alayhi salat wa salam avait invoqué contre eux, et cela jusqu'à ce que le châtiment s'abatte sur eux, afin que ce dernier soit une cause par laquelle ils puissent se repentir et revenir vers leur Seigneur. Je referme la parenthèse. Et Allah dit à Moussa et Haroun, votre invocation à tous deux a été exaucée. Et c'est là une part de la réponse d'Allah à l'invocation de Moussa et Haroun. On trouve à ce sujet le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Abbas et radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Et ce hadith, vous pouvez le retrouver dans As-Silsila Sahiha de Cheikhouna al-Albani sous le numéro 2015. Donc c'est un hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Djibril m'a dit, lorsque Pharaon dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, j'ai pris du sable et je lui en ai mis dans la bouche de peur que la miséricorde divine ne le touche. C'est-à-dire qu'il fut incapable après cela d'exprimer un repentir sincère ou même de prononcer le nom d'Allah, car il n'a pas dit La ilaha illallah. Je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration sauf Allah. Mais il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Il n'a même pas pu prononcer le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette parole du prophète, as-salam, peut expliquer cela. Wallahu a'lam. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit, maintenant tu crois sur le ton de la réprobation, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs. C'est la désapprobation sous la forme interrogative qui montre le rejet par Allah du repentir de Pharaon. En effet, et Allah est plus savant, si celui-ci était ramené à la vie, il agirait exactement de la même manière comme Allah nous en informe au sujet des mécréants qui, en voyant l'enfer, disent « Ya laytana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl » À Sourate numéro 6, les versets 27 et 28. Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et ferions partie des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'ils cachaient jadis. Et même Si on les y renvoyait, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Quant à la parole d'Allah, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Ibn Abbas et d'autres ont dit, certains membres des enfants d'Israël doutaient de la mort de Pharaon au point de dire, il est immortel. Allah ordonna alors à la mer de le soulever sur un monticule, ou pour d'autres à la surface de l'eau, ou encore sur un monticule de terre, tandis qu'il portait l'armure par laquelle il le reconnaissait, afin qu'il confirme sa mort et connaisse la puissance d'Allah qui s'est abattue sur lui. C'est pourquoi Allah dira, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, couvert de ta fameuse armure, afin que tu sois un signe pour tes successeurs, parmi les enfants d'Israël, et qu'ils aient une preuve de la puissance d'Allah qui t'a anéanti. Le sens peut également être le suivant. Nous préservons ton corps couvert de ton armure afin que tu sois un signe pour les enfants d'Israël qui viennent après toi, pour qu'ils te connaissent et sachent que tu as péri. Et Allah est plus savant. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que parmi les sagesses derrière la préservation du corps de Pharaon, est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu fermer la porte aux gens, aux différentes croyances qui pourraient survenir à leurs esprits. En effet, si le corps de Pharaon avait disparu, certains auraient pu dire qu'il n'est pas mort, ou encore qu'il fut élevé au ciel, ou d'autres mensonges de ce type. Mais le fait que la mer a rejeté le corps intact a permis de montrer aux gens après lui que Moussa était véridique, et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a eu le dessus sur Pharaon. De même, les enfants d'Israël, comme l'a souligné l'imam Ibn Kathir, avaient besoin de voir ce miracle afin de solidifier leur foi et de réaliser que Pharaon n'est pas celui qu'ils pensaient être, à savoir une divinité immortelle. C'est ainsi qu'Allah châtia cet orgueilleux et ce tyran, et cela sous les yeux des croyants. Allah n'accepta pas son repentir, car il a vu le châtiment. L'imam Abdurrahman ibn Sa'd, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, si les mécréants arrivent dans cette situation critique, c'est-à-dire aux affres de la mort, de telle sorte que la personne dans les affres de la mort va voir les anges arriver, alors il aura l'œil de la certitude. Leur foi ne leur sera d'aucune utilité, car cette dernière est alors liée à la vision et non plus à la croyance, comme celui qui croirait au jour dernier après l'avoir vu. C'est-à-dire qu'une personne qui croirait après la résurrection le jour du jugement, sa foi ne lui est plus d'aucune utilité. Et l'imam Saad dit de continuer de dire, la foi profitable est celle sur ce qui est imperceptible et caché. La foi profitable est celle sur ce qui est imperceptible et caché. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il décrit les croyants, la première qualité qu'il leur donne, c'est le fait qu'ils croient en l'invisible. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghayb. Alif lam mim, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute, qui constitue une guidée pour les gens pieux, al-muttaqun. Puis ensuite, Allah va les décrire. La première qualité qu'il leur donne est ceux-là même qui croient en l'invisible, à l'imperceptible et au caché, el-raïb. Pour vous montrer aussi la valeur de la croyance à l'imperceptible, au caché, et le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans de maints endroits dans le Coran, a qualifié les croyants et les a vantés comme étant ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Nous croyons en Allah, bien qu'aucun d'entre nous ne l'ait vu. Nous croyons au jour dernier, bien qu'aucun d'entre nous ne l'ait vu. Mais le fait d'y croire montre notre degré de sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et notre degré de véridicité vis-à-vis de la parole d'Allah et de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pharaon et ses soldats périrent donc ce fameux jour de Ashura, qui est le 10e jour du Muharram. Et nous avions cité la semaine dernière les mérites de ce jour où le prophète alayhi nous avait enjoint à jeûner en disant, nous sommes plus à même de se réclamer de Moussa que les Juifs. Donc jeûnons ce jour-là. Car les Juifs jeûnaient le jour de Ashura en signe de reconnaissance envers Allah du fait qu'il a sauvé les enfants d'Israël de Pharaon et de ses armées. Or le prophète alayhi nous a rappelé une chose très importante. Il nous a dit, nous sommes les plus en droit de se réclamer de Moussa et de les suivre. Et le prophète a fortement enjoint les croyants à jeûner ce jour de Ashura, le jour où Allah sauva Moussa ainsi que les croyants de Pharaon et de ses armées après des années de servitude. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله